Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Avec Christian Page.
Merci Louis Lacroix.
Comment vas-tu?
Très bien.
Bon, revenons sur notre premier sujet de la semaine dernière parce que
Il y a du nouveau.
Il y a du nouveau
et on va rester en même temps dans le ton du fleuve Saint-Laurent et de son eau brunâtre.
Oui, dont on parlait tout à l'heure, exactement, parce qu'on parlait de ce fameux sarcophage qui a été découvert en Égypte.
Voilà, donc je rappelle un peu aux auditeurs cette histoire. 1er juillet dernier, alors que des ouvriers travaillaient à un nouveau lotissement au pied pratiquement d'un édifice gouvernemental à Alexandrie, en Égypte. Ils ont mis à jour un sarcophage. Et évidemment, ça a alimenté énormément de rumeurs parce que le sarcophage en question faisait un peu plus de 2,65 m de long, c'est-à-dire 9 pieds. C'est le plus gros sarcophage du genre à avoir été découvert. C'est un sarcophage de granit noir. Et comme il y avait encore une espèce de lien en ciment, on croyait que le sarcophage n'avait pas été rouvert depuis sa mise en terre, à peu près il y a 2000 ans.
Alors, comme il faisait 2,65 m, on s'est dit, ça doit être Alexandre le Grand.
Mais t'as tout à fait raison. En ce sens que ça a alimenté toutes sortes de spéculations, dont Alexandre, le cercueil d'Alexandre le Grand, dont on n'a jamais retrouvé la sépulture. Et évidemment, du côté des théoriciens du complot, les amateurs de fantastique, on a parlé qu'il pouvait peut-être s'agir du corps d'un extraterrestre. Et on évoquait pour ça un mystérieux projet qui se serait tenu en Russie dans les années 60, qu'on avait appris le projet ISIS, et dont les Russes, le KGB, cherchaient apparemment à mettre la main sur le corps d'un extraterrestre qui aurait été enterré en Égypte. Je te dis tout de suite, j'ai vérifié dans les archives du KGB, c'est de la foutaise. Il n'y a rien à ce sujet-là. Cela étant dit, on a ouvert jeudi dernier le fameux sarcophage. On évaluait son poids à 30 tonnes. On a ouvert le fameux sarcophage et déception. À l'intérieur, il y avait, comme l'avaient supposé de nombreux archéologues, plusieurs membres d'une même famille. En fait, trois squelettes. En fait, c'était des momies, mais il ne restait à peu près plus rien des artifices de la momie, si je puis dire. Il ne restait que des os qui flottaient dans une soupe malodorante, parce qu'on a découvert effectivement que les eaux, le ruissellement de pluie, s'était introduit dans le sarcophage, ainsi que l'eau des égouts d'Alexandrie, parce que des canalisations passaient juste à côté du dit sarcophage. Alors, on croyait que l'affaire était un peu arrêtée, terminée, merci, bonsoir, mais voilà que, évidemment, c'était sans compter sur l'imagination des amateurs de YouTube et tout le reste. Alors, voilà qu'il y a un Britannique, un programmeur en informatique qui s'appelle Ines McKendrick, qui lui s'est mis à dire que ce jus, ce cocktail, devait avoir des propriétés tout à fait fantastiques, puisqu'il devait contenir quelque part les matériaux utilisés pour la momification. Et là, évidemment, il y a toute l'aura qui entoure ça sur la préservation du corps, etc. Alors, bref, il spécule en disant, voilà, il doit y avoir des propriétés magiques dans cette soupe. Et crois-le ou non, il a lancé une pétition pour demander aux autorités égyptiennes de mettre en bouteille cette soupe en question. Et plus de 18 000 personnes ont signé la pétition comme de quoi ils voulaient, eux, consommer certains quelques millilitres de cette fameuse concoction. Écoute, pour les besoins de la cause...
Tu y as goûté.
Non, pas du tout. Mais évidemment, lorsque cette histoire-là a commencé à circuler, tu comprendras que de nombreux microbiologistes ont pris position. L'un d'eux, Rolf Alden, de l'Université de l'Arizona, a écrit dans son blog que c'était, on s'en doute, une très mauvaise idée vouloir consommer cette soupe en question. Et là, il mentionne, et là, je te fais pas une liste exhaustive, mais il mentionne, il dit là-dedans, il doit y avoir des bactéries, des virus, des endospores. Et il dit en particulier, les endospores, c'est probablement la pire chose que l'on peut consommer parce que ça résiste à peu près à tout. Ouais. Et bien sûr, ça va entraîner des infections graves. Donc, avis à ceux qui ont signé la pétition, même si éventuellement le gouvernement égyptien voulait, j'en doute, mais s'il voulait exploiter cette bouillabaisse de momie, je pense qu'il faudrait plutôt passer notre tour.
Bon, souvenir d'enfance maintenant.
Si je te demandais, Louis, à quel âge, quel est ton plus ancien souvenir? Es-tu capable de me fixer un âge pour ton plus ancien souvenir?
Eh mon Dieu, ben c'est sûr que c'est à l'époque où j'étais enfant... probablement quand on était sur la rue Bordeaux, là, ici, au 5994 rue Bordeaux, d'ailleurs.
OK, tu avais quel âge?
Devant 3 ou 4 ans, peut-être. Peut-être 3 ans.
OK, 3
ouais,
ans.
Ouais, ouais.
En fait, quand on regarde la statistique, en fait, 40 % des gens à qui on pose cette question ont des souvenirs ou croient avoir des souvenirs qui datent d'avant l'âge de 3 ans.
Ouais.
Mais mécaniquement parlant, notre cerveau n'est pas constitué de manière à conserver des souvenirs à long terme à cet âge-là. Bref, tous les gens qui croient avoir des souvenirs antérieurs à l'âge de 3 ans imaginent ces souvenirs-là. Ce ne sont pas des souvenirs réels.
Des souvenirs induits.
C'est une étude qui vient d'être publiée dans le Psychological Science, un périodique scientifique. On a fait une étude auprès de 6600 personnes. Et comme je l'ai mentionné, à peu près 40 % des gens disent avoir des souvenirs antérieurs à l'âge de 3 ans. Ce qui, biologiquement et neurologiquement, est impossible. Alors, d'où viennent ces souvenirs? Et pourquoi c'est intéressant dans un cadre mythe et complot?
Ouais.
Parce que dans le domaine du paranormal, souvent, on a toutes sortes d'histoires de réincarnation, d'enlèvement par des extraterrestres. On prend des gens, on les fait régresser dans le temps par hypnose. Et là, ils nous racontent des histoires souvent fantaisistes. On se rappellera, dans les années 80, il y avait eu en Amérique du Nord un truc qu'on avait appelé la panique satanique. On prenait des gens, on les plaçait, souvent c'était des groupements fondamentalistes religieux, on prenait des gens, on les plaçait en état d'hypnose, on les ramenait dans l'enfance, et là, ils disaient « j'ai été abusé par des oncles, des tantes qui appartenaient à des sectes sataniques », et ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et là évidemment, on s'est mis à accuser à gauche et à droite plein de gens d'appartenir à des sectes sataniques. Cette étude montre que ce type de souvenir est absolument caduque. Ce n'est pas la réalité. En fait, si les gens croient qu'ils ont des souvenirs avant l'âge de 3 ans et demi ou de l'âge de 3 ans minimalement, c'est parce qu'ils les ont recréés. Ce sont des fausses mémoires. Ils ont probablement vu des photographies de leur enfance alors qu'ils avaient 1 an, 2 ans. Ils ont discuté avec leurs parents. Leurs parents leur ont raconté des anecdotes relatives à cette époque-là. Et peu à peu, ils se sont mis à imaginer des souvenirs qui étaient reconstitués. C'est une réalité reconstituée et non pas un souvenir factuel d'un événement. Et là, c'est très important parce que quand on prend des témoignages, que ce soit dans le domaine du paranormal, comme je l'ai mentionné, dans le cadre des réincarnations, les enlèvements extraterrestres, ou même des abus par des sectes sataniques, il faut être excessivement prudent parce qu'en bas de l'âge de 3 ans, il est à peu près biologiquement, neurologiquement, peu importe, il est à peu près impossible de garder un souvenir à long terme de cette période.
Alors, si vous en avez, c'est peut-être parce que vous avez parlé avec votre mère, vous dites, quand tu avais 2 ans, à un moment donné, il est arrivé, là, tel événement est arrivé, puis là, tu as réagi de cette façon-là, puis t'étais dans ta chaise haute à telle place. Donc, tu fais comme créer ou construire un faux souvenir.
Parce que les gens, quand on parlait avec des gens, dans cette étude, comme je l'ai mentionné, on a questionné 6600 candidats. Et quand ces gens-là se rappelaient des souvenirs de la petite enfance, donc avant l'âge de 3 ans, ils fournissaient des détails qui permettaient de conclure qu'ils avaient cet âge-là. Mmh. Parce que bien sûr, si tu me dis, je me rappelle quand j'avais 2 ans et demi, je suis tombé en bas d'un cheval, par exemple, un cheval de bois dans un parc. Mais évidemment, en fouillant, peut-être que cet événement-là s'est produit alors que tu avais 4 ans. Donc, difficile de mettre un âge.
Ouais.
Mais dans certains cas, les gens disaient, moi, je me rappelle, j'étais étendu dans mon berceau. Donc, ils fournissaient des détails environnementaux, si je puis dire, qui permettaient de situer l'âge du poupon. Or, c'était impossible. Donc, obligatoirement, comme tu le mentionnes, on recrée un souvenir à partir de récits qui sont faits par des oncles, des tantes, des proches, des parents. Et là, voilà qu'on recrée une réalité autour de ça, mais ce n'est pas la réalité factuelle objective.
Bon, tu viens de détruire tous mes souvenirs d'enfance.
Oui, je sais, je sais.
Ah, bravo! Franchement. Toujours avec Christian Page et ses histoires extraordinaires. Il y a quelques jours, il y a un panel indépendant qui a remis en question toute la question de l'eugénisme.
Oui, en fait, on parle ici de la manipulation de l'ADN dans le fœtus humain. Et là, évidemment... On sait tous que la manipulation génétique sur des humains, ça ne s'est jamais fait.
Ben non. Il n'y a jamais un sombre laboratoire dans le fin fond de la Russie, mettons.
Non, et on le sait, lorsqu'il y a manipulation génétique sur le plan éthique, il est autorisé de faire des manipulations sur du génome humain, mais il faut que les embryons soient détruits lorsqu'ils atteignent une maturité de 3 mois.
Ouais.
Ce qui m'avait amené, il y a quelques semaines, à te parler de l'homme poulet.
Oui.
L'homme poulet.
Je pensais que c'était une vieille publicité donc, de Michael Bossy.
Donc, le super pouvoir était de pondre des œufs. Mais, donc, ça, c'est sur le plan éthique dans les grands pays, disons, occidentaux. C'est à peu près l'éthique sur laquelle on s'entend. Et là, voilà qu'il y a quelques jours, le Neufeld Council of Bioethics, qui est une organisation, en fait, c'est un panel indépendant qui regroupe des scientifiques spécialisés dans l'aspect génétique, hein, les questions génétiques, un groupe de Grande-Bretagne. Et là, ces gens-là ont remis un rapport. Évidemment, ce rapport-là, je te le dis tout de suite, il n'a pas force de loi. C'est simplement une opinion. Et ces gens-là sont d'avis qu'il n'est pas, en fait, qu'on doit considérer la possibilité de faire de la manipulation génétique sur des embryons humains si, ultimement, le but est de protéger, en fait, de prévoir des malformations congénitales ou peut-être même de protéger l'enfant à naître d'une maladie dégénérative qu'on pourrait, à la base, en fait, en amont, pouvoir corriger.
Comme, par exemple, si on était capable de corriger le code génétique d'un embryon pour éviter que, rendu, je sais pas moi, à 70 ans,
il y a la maladie d'Alzheimer.
Donc, si on réussit à faire ça. Ouais.
Et évidemment, le rapport va un peu plus loin en disant, il n'est pas non plus, on n'est pas fermé à l'idée, ou à tout le moins, la communauté scientifique devrait se pencher sur la possibilité de faire des manipulations génétiques qui pourraient améliorer l'individu. Mais qu'est-ce que c'est améliorer l'individu? Eux, ils vont avec des éléments très ténus. Bon, changer la couleur des cheveux, changer la couleur des yeux, changer peut-être le gabarit. Mais où est-ce que ça va s'arrêter?
Oui.
On se rappellera, et là, évidemment, le spectre, il est là. On se rappellera, il y a quand même 70 ans, on avait voulu faire un peu cette vision-là. Des médecins dans l'Allemagne nazie étaient pour cet eugénisme. Donc, créer des Allemands, cheveux blonds, yeux bleus, des bons Ariens. Et...
pas des bons Ariens, mais des bons Ariens.
Des bons Ariens. Donc, on voulait créer cet eugénisme pour améliorer la race allemande.
Ouais.
Alors, évidemment, à partir du moment où tu as des gens qui se mettent autour d'une table et commencent à discuter et commencent à accepter ça, et évidemment, il y aura des inégalités parce qu'on le sait sur le plan de la statistique, par exemple, un individu qui mesure 1,95 m, généralement, va avoir plus de succès dans ses entreprises socialement qu'un individu qui mesure 1,60 m.
Ouais.
C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Les statistiques le montrent bien. On le sait, dans certains pays, par exemple, les femmes ne sont pas considérées à l'égal des hommes.
Exact.
Donc, est-ce que les femmes n'auront pas tendance à dire, ben là, dorénavant, on veut simplement mettre au monde des garçons, on ne veut pas de filles parce que les filles sont considérées dans notre société comme des citoyens de deuxième zone. Alors là, évidemment, tu as tout un aspect excessivement éthique qui se place et on se dit, ben, où on doit mettre les balises. Et là, au moment où on se parle, ce conseil-là, bien sûr, on n'a pas force de loi, mais ouvre la porte, malheureusement, à ce qui pourrait éventuellement être des dérapages, à mon avis.
Ouais. C'est toujours
voyons ce qui va se passer.
Délicat. Et tiens, on va terminer avec une bonne vieille histoire de fantômes.
Oui, et ici, en fait, je pourrais te dire, Louis, que ça pourrait être amusant si ce n'était pas le contexte qui était si triste que ça. Donc, je te rappelle les événements. On est en février. Il y a un petit bambin qui est admis à l'hôpital de Carrollton. Ça se trouve au Texas. L'enfant a visiblement eu des maltraitances. Et là, bon, les parents disent, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant est tombé, il s'est cogné à la tête. Mais évidemment, les médecins ne sont pas dupes. En regardant l'état de l'enfant, on parle d'un petit bambin de 2 mois, là. On se rend vite compte que l'enfant souffre probablement du syndrome de l'enfant secoué. Et il a visiblement eu des maltraitances sur une plus longue période. Alors, évidemment, on en informe les autorités. Les parents, en fait, Maria Benavides Ruiz, qui a 21 ans, et son mari José, sont tous les deux arrêtés, questionnés. Et là, ils vont raconter une première histoire. Madame Ruiz dit, j'étais couchée, l'enfant était sur moi, je l'avais alité et on s'est endormi. Et à un moment donné, l'enfant vomit, ça m'a réveillé en sursaut, en me redressant, l'enfant est tombé en bas du lit.
Ouais.
Mais ça ne correspond pas aux blessures que les médecins ont constatées. Alors, nouvelle histoire. On interroge à nouveau les parents. Nouvelle histoire. Là, cette fois, c'est José Ruiz qui dit, je tenais l'enfant d'une main, ma compagne dormait, j'ai essayé de prendre une couche dans le sac à couches, j'ai échappé l'enfant, il est tombé sur le sol. Voilà l'explication. Mais là encore, les médecins disent, non, ça ne fonctionnait pas. troisième histoire.
Là, un moment donné, mais au bout de la troisième histoire, j'espère que les policiers ont commencé à dire hey, là, arrête de nous charroyer, là.
Oui, mais on n'avait pas encore tout vu.
Parce que les deux histoires sont différentes, mais totalement en plus, les deux premières.
Troisième histoire. Le père dit « Je me suis réveillé, ma compagne était à côté de moi. En fait, elle m'a secoué, j'ouvre les yeux. Elle me pointe du doigt l'enfant qui est étendu sur le sol. C'est un fantôme qui l'aurait pris et lancé en dehors de son berceau. » Et il dit « J'ai même utilisé mon téléphone portable pour essayer de prendre des photographies du fantôme. Mais... » Mauvais choix.
On sait que les fantômes n'aiment pas les photos.
Oh, c'est toujours des photos floues. Mais les policiers aiment beaucoup les téléphones portables parce qu'ils ont saisi le monsieur en disant « J'ai essayé de prendre des photos du fantôme avec mon portable. » Les policiers ont saisi les deux appareils, les deux téléphones portables du monsieur pour découvrir toute une série d'échanges, des textos, comme on dit, entre lui et sa compagne, où ils discutent justement des questions qui sont posées par les policiers. Et là, ils échangent en disant « J'espère qu'ils trouveront pas le poteau rose, ils verront pas que l'enfant a été maltraité ou ci ou ça. » Donc, des textos excessivement incriminants. Ils disculpent pas pour le fantôme. Et là, évidemment, la dame en question a été formellement arrêtée, accusée de maltraitance sur son enfant. Elle a été remise en liberté avec promesse de comparaître.
Mais comment tu peux t'imaginer que tu vas raconter une histoire de fantôme puis les policiers vont te croire? Vont dire c'est crédible puis j'embarque là-dedans.
J'en ai aucune idée, Louis. Écoute, je lisais la nouvelle, je n'y croyais pas. J'ai regardé les bulletins d'information de la télévision locale qui reprenait les détails de cette histoire-là. Et je me suis dit exactement, j'ai fait le même constat que toi. Comment peut-on raconter une histoire des fadaises comme celle-là et croire que les policiers vont nous croire? Et d'autant plus qu'on en est à une troisième version. Moi, je me rappelle, j'ai fait plusieurs séries judiciaires policières et les policiers disaient souvent, si t'as envie de compter un mensonge, tiens-toi-en au mensonge. Ne change pas de version parce qu'éventuellement, ça va mal paraître. Et là, effectivement, on en est à une troisième version de cette histoire. Et comme je l'ai mentionné, si ce n'était pas les circonstances qui sont un peu dramatiques. Évidemment, on pourrait un peu se bidonner sur cette histoire-là. Mais bon.
Est-ce que ça existe des fantômes, des histoires de fantômes violents?
On en a quelques-unes dans la littérature, des gens qui disent avoir été agressés par des fantômes, mais malheureusement, les preuves ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas de photos non plus.
Non, c'est ça.
Écoute, Louis, juste avant de terminer, je voulais simplement faire une sorte de petite précision. On le sait, aujourd'hui, c'est cette fameuse lune rouge dont on a beaucoup parlé.
Oui.
L'éclipse lunaire ne sera à peu près pas vue en Amérique du Nord. C'est surtout en Europe qu'on va la voir. Et beaucoup de gens ont cru une fausse nouvelle que circulant début de semaine, que la planète Mars serait aussi grosse dans le firmament que va être la Lune.
Ouais.
Alors, je le dis tout de suite, c'est une fausse rumeur, c'est des bobards. Mars ne peut pas être aussi grosse que la Lune, compte tenu de sa distance. Mais c'est vrai que ce soir, Mars sera à peu près à son point le plus proche de la Terre, ce qui en fera un point excessivement lumineux dans le ciel. Donc, visible tout près de la Lune, ce sera une espèce de point rouge scintillant. Mais non, ne pensez pas que Mars sera aussi grosse que le disque lunaire.
C'est impossible. Parce que la nouvelle, ce qu'elle disait en plus, là, c'était que la proximité à laquelle allait se retrouver la planète Mars, ça aurait été le plus près de la Terre depuis 36 000 quelques années. Là.
C'est ça.
Ce qui est une absurdité totale.
Et ce qui est assez amusant, et là on voit bien, les photos se méfient de ce qu'on retrouve sur le web. Tu vois, cette information-là a été transmise par un site qui s'appelle InfoScience. Là, si tu dis InfoScience,
ça doit être crédible.
Et en tout petit caractère, InfoScience le dit, on est un site humoristique, on fait la promotion de fausses nouvelles.
Ouais.
Donc cette information-là s'est trouvée sur un site de fausses nouvelles.
Ouais.
Donc il faut absolument se méfier de ce genre de truc-là.
Mais de toute façon, l'éclipse, on ne peut pas la voir pour deux raisons. C'est que, première des choses, c'est
on est de jour. Et ensuite de ça, comme... Donc, si on la regarde de jour, on va voir une partie de la Lune se couvrir légèrement par cet ombrage. C'est un cône d'ombre qui est jeté. Mais on n'est pas en position... Notre position spatiale sur la surface du globe ne nous permet pas de voir cette éclipse-là, qui est en fait la plus importante, qui sera la plus importante également du 21e siècle.
Ouais.
Donc, un phénomène céleste extraordinaire, mais somme toute, on est mal placé pour y assister.
Ouais, c'est le 49e anniversaire de l'alunissage.
Oui, effectivement.
C'était le 25, je pense.
C'était la mission, dépendamment de l'heure où on se situe, c'était le 21 juillet, l'heure officielle.
Ouais.
21 juillet à 2h56 du matin, lorsque Armstrong a dit cette célèbre phrase, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité.
Tu
49e
vois,
anniversaire.
On parlait de souvenirs d'enfance, là, tout à l'heure. Moi, je me souviens très bien qu'on avait regardé ça. Écoute, en 69, j'avais... D'abord, en 69, tout était beau.
Oui, c'est ça.
J'avais quelque chose comme 5 ans ou 4 ans. Puis je me souviens très bien d'avoir regardé ça avec mon père.
Mais tu vois, j'avais à peu près le même âge. Et moi, je me rappelle, j'étais chez mes grands-parents. Mon grand-père m'avait fait lever le soir. Il était à peu près 22h, 23h, ici, heure du Québec, pour que je voie ces images en me disant, tu vas te rappeler de ça toute
ta vie. Mais t'es beaucoup plus vieux que moi. Alors,
absolument, absolument. C'est pour ça que je m'en rappelle beaucoup
Mais beaucoup plus vieux, là.
Ah, c'est évident.
Un ancêtre.
Ça se voit.